franceinter.fr.
Stuart Copeland of the Police lived here.
Exactly, rather.
The band The Police was
created.
Yeah.
The Police first rehearsed. The Police first rehearsed in this place on the 12th of January 1977. That's the date.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, yeah, we hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une heure tout vous.
Hey, boys! Come save me!
You're gonna be fine.
Say it again.
Une heure tout vous.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Ah, ce générique, cette érudition et cette passion. Claude Jean-Philippe, parti un 11 septembre, un passeur de cinéma sur Antenne 2 et France 2, qui avait une certaine idée du spectateur. Avec lui, nous avons découvert Fritz Lang, Fuller, Lubitsch, Renoir, Truffaut, Wells, Rossellini et tant d'autres. Je me souviens de l'avoir souvent croisé en projection, solitaire, timide. Il s'installait toujours au premier rang, au plus près du film. Claude Jean-Philippe, celui qui a su si bien marier cinéphilie et télévision, cette émission lui est dédiée. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est l'histoire d'un jeune Corse de 24 ans qui débarqua à Londres un jour de décembre 76, au siècle dernier donc, et en pleine punkitude. En janvier suivant, il créera avec Sting et Stuart Copeland Police. Bonjour Henri Padovani.
Bonjour.
Ce n'est pas votre seul quart d'heure. Warholien suivra et survivra un vrai parcours de musicien raconté dans un film Rock'n'Roll of Corse. Bienvenue à vos deux réalisateurs, Lionel Gage. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Bébert, welcome.
Welcome, bonjour.
Et pour vraiment compléter cette partition, un spécialiste, bébé journaliste à peine à l'émergence du punk, Olivier Cachin, bonjour.
Salut.
De Rock et Folk. Vous parlez comme votre patron.
Oui, c'est bizarre, on dirait quelqu'un.
Rock'n'Roll of Corse sortira mercredi prochain dans les meilleures salles. Les films de cette semaine entre un Michael Moore, Bisounours et une tolarde déguisée en Sophie Marceau, un fourgon de police en Égypte ou de naïfs marchands d'armes à Miami.
Quand les mecs y pensent, ils te disent, tu veux dire que toi tu allais le soir, tu voyais dans la même soirée les Damned, les Buzzcocks, c'est peut-être les Clash, tu dis ouais, ça paraît incroyable. Mais c'était simplement des groupes qui démarraient, quoi. Et on était 200 ou 100 ou 300. Il y avait la chance pour tout le monde.
Henri Padovani, que s'est-il passé dans votre tête de 24 ans pour partir à Londres, cette fin 76? L'impression assez juste d'ailleurs que tout ce qui était intéressant en musique se passait là-bas?
Oui, en fait, si vous me demandez vraiment ce qui s'est passé dans ma tête et pourquoi je suis parti, je pourrais pas vous le dire parce que je ne le sais pas non plus. Mais je me dis que j'ai bien fait d'y aller.
Vous...
Parce que je me cherchais comme tous les gamins de 24 ans et que j'étais à la fac et qu'on m'avait expliqué que c'était génial en Angleterre. Une sorte de Disneyland du rock'n'roll. Et ben, j'avais envie de, comme Pinocchio, d'aller voir ce qui se passait là-bas. Et je suis plus rentré.
Vous parliez anglais déjà à l'époque?
Bah, j'étais bon à l'école, quoi. Comme, ouais, j'étais un des meilleurs élèves de ma classe parce que je m'intéressais à la musique et puis on chantait, on traduisait les paroles, tout ça. Mais je me suis rendu compte que je savais pas grand chose hein, quand je suis arrivé.
On vous appelait the Leaguer of the Year, le type qui savait un peu, qui connaissait un peu les bons endroits à Londres. En fait, vous étiez très curieux, Henri Padovani.
Oui, sûrement. Et puis surtout, je m'éclatais parce que, vous savez, j'avais 24 ans, j'avais toujours une vie à peu près normale, quoi. Bien sûr, j'étais passionné de musique, mais bon, aller à Londres et puis ne pas avoir ses frères, ses sœurs, ses parents pas trop loin, ses amis normaux, etc. Et puis de se retrouver dans une ville comme Londres, pleine de musique, et puis surtout d'avoir ces nouveaux amis qui étaient vraiment des éclatés et qui, eux, s'éclataient vachement plus que nous, quoi. C'était des jeunes qui se construisaient un futur, qui voulaient tout réinventer. Ben, il y avait pas de règles, il y avait rien, quoi. Et c'était génial. Donc, ouais, je m'éclatais, mais vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'étais fait pour m'éclater, quoi, je crois.
C'était l'époque de Le Clash, hein, pour les fans.
Bravo.
On écoute un morceau.
Oh,
quelle énergie, je sais pas, Olivier Cachin, là, vous.
Ah, c'est magnifique. Puis ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'à l'époque, quand le punk est arrivé, les charts en Angleterre, c'était Boney M, les Rubettes, Rod Stewart, enfin, c'était, Village People, c'était absolument horrible. Le punk est arrivé, effectivement, comme le disait Henri, c'est une explosion de fraîcheur, des chansons qui font moins de 3 minutes, des gars qui ont des trucs à dire, qui savent pas jouer, mais qui s'en foutent. C'était, non, mais c'est, parce que quand même, faut que savoir que Emerson, Lake et Palmer ou Yes, c'était des morceaux de 18 minutes avec des guitares à 28 cordes et des 5 accords en 30 secondes. C'était abominable, quoi. Il fallait quelque chose pour vraiment changer tout ça.
Mishka Assayas dit le dernier, les punks, le dernier grand mouvement collectif et idéaliste dans l'Europe, vous êtes d'accord?
C'est vrai, et ce qui est marrant, c'est que moi, à l'époque, je pensais, moi j'étais très jeune, c'était mes premiers voyages linguistiques en Angleterre en 77, et je pensais que le punk, c'était la mort du rock. Et en fait, c'était sa dernière émanation dans sa forme, sa grande vitalité. Enfin, moi, le truc, c'est qu'à l'époque, en se disant 77, merde, c'est déjà fini, en fait, que ça avait commencé en 76 aux États-Unis avec les Ramones. Mais oui, c'est impossible d'imaginer aujourd'hui où la musique est tellement facilement disponible ce que c'était que de se procurer un 45 tours d'un groupe qu'on aimait, de découvrir effectivement les Buzzcocks, les Ramones, les Damned, les Clash, les Jam, Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods. Il y avait un groupe nouveau par semaine et soudain, il se passait quelque chose dans la musique.
Henri Padovani, ces musiciens se respectaient et ne se jalousaient pas, c'est vrai?
Oui, mais c'est surtout que le punk, enfin, après chacun a sa vision, moi je pense que c'était quand même une sorte de mouvement citoyen, quoi. Mais c'était des gens qui se donnaient des moyens de réussir. Et de toute façon, des gens qui se cherchaient un futur et qui se battaient contre un establishment qui n'avait aucune solution pour eux, donc ils voulaient se la créer, la solution. Et surtout, ces gens-là n'attendaient aucune bonne note des spécialistes, ni de l'establishment, ni de personne. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas en demande de recevoir une bénédiction de qui que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Et c'est ça qui s'est passé. Et ça veut dire que, ouais, ok, dans la musique, les charts, les journalistes, ils pouvaient aimer les Yes, etc. Mais nous, on s'en foutait. On n'attendait pas de toute façon qu'ils nous comparent à qui que ce soit. On leur a imposé ce truc-là, quoi. Voilà, grosso modo, c'était ça.
Un soir, vous vouliez dans un pub avec un certain Stuart Copeland, qui est batteur. Il voulait créer un trio et il venait de rencontrer un certain Gordon Sumner. C'est Sting, racontez-nous ça. C'est aussi simple que ça, vous rencontrez ce type-là et voilà, ça se fait.
Oui, mais c'était pas Sting de maintenant.
Non,
le Sting de maintenant, vous le rencontrez pas, il faut aller à Central Park. Hein,
Non, simplement. Je parle surtout de Copeland d'ailleurs.
Non, mais simplement, Stuart l'avait vu jouer dans un club de Newcastle, dans le Nord, c'est-à-dire c'est vraiment le Nord, c'est un Geordie, quoi. Les Geordies là-bas. Il avait vu jouer, il avait trouvé pas mal, il avait pris son nom, etc. Parce que Stuart voulait monter un groupe. Moi, quand j'ai rencontré Stuart, Copeland, qui sera le batteur de Police, il cherchait à monter un groupe. Donc, il avait pris son nom, il prenait le nom de tout le monde, quoi. Il cherchait des gens avec qui jouer. Moi, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Ah, tu es guitariste, c'est toi le guitariste ?» Ok, Paul m'en a parlé, c'est parce que Paul, c'était la personne chez qui je suis allé loger. Ils m'ont dit, viens, on jam à la maison. Je suis allé jammer. Il m'a dit, génial, tu as envie de monter un groupe avec moi? J'ai dit, ouais, mais il nous faut un bassiste. Il me dit, ouais, il faut trouver un bassiste. Alors moi, comme je sortais tous les soirs pratiquement, bon, moi, j'arrivais dans une ville, donc je fais un peu et le touriste et le mec qui a envie de s'éclater.
On se croirait dans le film, là.
Non, mais donc, je vais un peu partout. Si je trouvais un bassiste, je l'aurais amené chez Stuart, quoi. C'était ça l'idée. Mm. Et je prenais contact avec des gens. Ah, t'as chez bassiste? Super. Dis-moi, tu habites où? C'est quoi ton numéro? Et voilà, quoi.
Et qui a trouvé le nom, Police?
C'est Stuart. Et Stuart, il avait tout préparé. Il avait écrit les chansons. Il avait le nom. On avait besoin d'un bassiste qui sache chanter. Ce qui réduisait un petit peu. Il n'y a pas tellement de bassistes qui chantent. Donc, quand Sting est arrivé, parce que lui, il venait à Londres, pour essayer de... Parce qu'il avait suivi sa femme qui avait trouvé un boulot sur Londres. Sa femme était une actrice. Mmh. Il avait un bébé, il avait besoin de thunes, il s'est inscrit au chômage. Et
c'est du beau tout ça, le punk.
Non, mais voilà. Et il cherchait un groupe avec qui jouer, même s'il imaginait essayer de percer avec son groupe de Newcastle à Londres, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc, quand il est venu nous voir, on l'a dit, tu sais chanter, tu joues de la basse, si tu as envie de jouer avec nous, nous on te veut.
Résultat, Fallout, The Police. Oui, on a un commentaire très intéressant des deux réalisateurs. Lionel Gage, Padovani, dans le film, on peut couper au montage. Mais nous, on est en direct, ça va pas du tout. Il y a eu une grande blessure après.
Je dis plus rien.
Ouais, ouais. Non, mais il y a une. D'ailleurs, à traiter pour De Real, c'est vrai qu'il y a eu une blessure après, c'est l'arrivée de Andy Summers. Je vais demander à Lionel et à Stéphane de nous raconter ça. Comment on traite ça, justement, quand un type comme Padovani crée ce, avec les autres, ce trio et qu'arrive l'ennemi?
Quand on a eu la chance de pouvoir rencontrer Sting et Stewart Copeland au Stade de France lors du concert où ils ont invité Henry à jouer avec eux, nous, on a simplement demandé qu'ils nous parlent de cette rencontre et de cette séparation. Et ils l'ont fait, je crois, très sincèrement, avec beaucoup d'émotion, parce que je ne sais pas s'ils l'avaient déjà fait, je ne crois pas, en image, peut-être en interview, mais pas en image. Et ils nous ont raconté simplement que les choses se sont passées d'une certaine manière. Quand Andy est arrivé, il avait un bagage musical qui était le sien, parce qu'il avait 10 ans de plus, c'était un guitariste de studio américain, enfin anglais, mais qui avait travaillé beaucoup aux États-Unis. Et du coup, Sting pouvait trouver chez lui un allié pour les chansons qu'il voulait composer et pour lesquelles Henry peut-être ne pouvait pas répondre à ses attentes. Et du coup, ben voilà, les choses se sont passées assez logiquement pour eux, même s'ils étaient très attachés à Henry, même si ça a été très dur, c'est ce qu'ils nous ont raconté.
Henry, c'est un drôle de gars quand même, Sting, hein, qui... C'est lui qui a dû vous l'annoncer finalement, mais bon, avec un gros ego aussi.
Non, oh là là, non. Je rétablis tout de suite.
Vous l'avez dit une fois, ça.
Non, mais c'est pas une blessure, hein. Parce que si vous voulez, le groupe en allait de nulle part. Et moi, franchement, quand je suis allé avec Wayne Cantillon et The Electric Chairs, on était vachement plus connus que Police. Vous savez, Police, on les a formés en 77. Vous avez dû les entendre pour la première fois en France en 79, en novembre 79. Mmh. Il s'est passé 2 ans pendant lesquels les pauvres, ils ramaient comme des bestias, pendant que nous, avec Wayne Canty, on faisait 2500 personnes à Londres, quoi. Et on les prenait en première partie. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de blessure. C'est-à-dire, la blessure qu'il y a, c'est toujours triste. Moi, le passé m'intéresse pas tellement, mais lorsqu'on casse quelque chose, une amitié, et qu'on recommence un truc, moi, j'aimerais que tout dure pour toujours. Vous voyez? Même cette émission. C'est pour ça que je vais continuer à parler.
Non. Henri, est-ce que... Attendez.
Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand on casse un truc, c'est bien dommage. Mais à part ça, c'était sûrement mieux, quoi.
Est-ce que vous vous considérez comme un grand guitariste?
Attendez. Quand je jouais avec Police, je ne savais pas jouer. Quand je jouais avant, je ne savais pas jouer. Quand j'ai rejoint Wayne Cantillon Electric Chair, je ne savais pas jouer. C'est-à-dire, je savais jouer.
Et vous aviez quoi, alors, comme qualité?
Je savais jouer. Mais je n'avais rien de style. Quand Wayne County m'a fait écouter des trucs des 60s, des trucs américains, des trucs comme les Ventures, j'ai dit, je sais qui je vais être. Et là, j'ai trouvé mon son. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai trouvé mon son, tout le monde voulait jouer avec moi. Les mecs, ils ont dit, mais ce guitariste, il est terrible. Et là, on devient bon lorsqu'on a une identité. Quand on peut jouer, c'est pas comment on joue qui est important, c'est pourquoi on joue et qu'est-ce qu'on veut dire, quoi?
Wayne Canty and the Electric Chairs, Night Child.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. All right. Millions of people that just live in the day. They are walking around, but they got nothing to say. Stick with me, baby. I'll show you how to fly. Rock and roll music makes the world.
Voilà, extrait bien sûr de ce film Rock'n'Roll, of course. C'est drôle, Henri Padovani, je vais poser la question à vos deux réalisateurs, mais quand on le voit avec Sting et les autres, on dirait un petit garçon, il est tout gentil, tout modeste dans son coin, alors que c'est quand même lui qui produit le film, hein, c'est...
C'est peut-être l'image ça que ça renvoie,
ouais.
Mais c'est un petit peu pour prolonger un peu ce qu'on était en train de dire tout à l'heure sur la façon dont nous on peut appréhender
ce type d'événement, leur séparation, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que c'est vraiment une blessure, est-ce que ça reste comme ça ancré dans les personnages et à la fois dans l'histoire de la musique, etc. Finalement, en fait, le personnage d'Henri, il est assez fidèle à ce qu'il véhicule, c'est-à-dire que, oui, comme il a dit, forcément, on imagine bien qu'il a vécu ça un petit peu, en tout cas sur le moment, voilà, comme quelque chose évidemment pas plaisant. En revanche, ça s'efface très vite et on passe à autre chose. Et évidemment, il a raison. Moi, je pense foncièrement que la séparation à ce moment-là du groupe Police et la séparation, si elle avait eu lieu un an ou deux ans plus tard, c'est-à-dire à un moment où le groupe est véritablement différent, je pense que ça serait honnêtement passé différemment. En revanche, là, ça continue. Et quand vous le voyez avec Sting et avec Stewart,
oui,
il y a quelque chose de retour, c'est retour vers le futur. Quoi. Ouais. Enfin, on est vraiment dans le passé, on retourne dans un groupe d'amis inséparables.
Olivier Cachin, vous avez vu le film, bien sûr. Au-delà du portrait de Henri Padovani, ça raconte une époque quand même. Hein.
Ah bah, c'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement, c'est toute une époque. Alors, c'est à travers lui, c'est toute une époque de la musique. C'est d'abord le punk, puis après les années 80. Puis effectivement, comme disait Lionel, le groupe n'a plus rien à voir, de toute façon. Donc, ce qu'a fait Henri après. Moi en fait, je l'ai découvert visuellement, Henri, quand j'ai acheté l'album de Wayne County, Storm the Gates of Heaven, où il est un des porteurs de la chaise électrique de Wayne County. Regardez la caméra, il a l'air très content. Et l'album était vachement bien, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé Man Enough to Be a Woman. C'est vrai que maintenant, Wayne County, qui est devenu Jane County, qu'on voit dans le film.
Oui, l'homme est devenu une femme.
Oui, et puis elle ressemble plus à grand chose. Hein. Elle a vraiment une tête assez particulière. Ouais. Mais oui, c'est ça qui est bien dans le film. C'est que, il y a les images d'archives, il y a tous les témoignages, puis il y a tout ce qu'il raconte. Parce que c'est vrai que passer de guitariste de Police, à manager de Zucchero Fornichari,
ouais,
avec les histoires avec Miles Copeland aussi, des trucs de dingue, l'histoire du château. Enfin, c'est une belle épopée, quoi. Pas quelqu'un mère en plus,
oui.
C'est ça qui est, dans le film, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est toujours content d'être là, quoi.
Et qui a les valeurs de l'amitié, etc. Mais il y a une notion que j'aime bien qui est dite entre les lignes aussi, c'est le discours sur la drogue, notamment, sans le dire absolument, c'est ce qui est plutôt bien. Vous rencontrez un des rescapés de cette époque, et notamment le batteur de Clash, Topper Hayden, il en a vécu de verte et des pas mûres.
Ouais, si vous voulez, la drogue, elle est arrivée dans le punk. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas de thunes. Hein, je veux dire, faut se dire que la drogue, on n'en prenait pas parce qu'on n'avait pas de thunes. Ou alors, on prenait des trucs vraiment de base, quoi. Mais des trucs comme l'héroïne, ce sont les Américains qui ont amené tout ça, les Sanders et tous ces mecs-là, ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont amené l'héroïne, quoi. Il y a des mecs, je veux dire, quand vous êtes en tournée, quand vous devez faire tout ce que vous devez faire, ce que vous pousse à faire la maison de disque, c'est comme Elvis, quoi. Vous tombez dedans parce qu'un coup, il faut être bien réveillé. Après, il faut dormir, il faut se réveiller le lendemain, etc. Et les mecs, ils tombent là-dedans très facilement.
Et comment vous visiez, vous?
Je buvais, moi.
Ça n'a pas changé français, énormément. Plus, hein.
Oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, après la drogue, ça veut dire on peut y toucher, mais il faut vite se dire, oulala, dangereux. Quand c'est dangereux, il ne faut pas faire. Puis moi, j'avais des valeurs, quoi, quelque part. Moi, je pensais souvent à mes parents, à des gens comme ça, qui étaient des gens tolérants, qui avaient cru en moi, en tout cas, qui m'avaient laissé toujours faire ce que je voulais. J'ai jamais voulu les décevoir, mes parents. Et ce sont des choses comme ça qui vous ramènent à la réalité, quelque part. Un mec comme Topper, moi, je descendais chez lui à Douvres et j'allais chez ses parents. J'étais obligé de leur raconter des histoires pour essayer de leur faire oublier que leur fils était là-haut dans la chambre et qu'il était en pleine, pleine défonce. Et bon, Stopper, c'est un de mes meilleurs amis et moi, je l'ai toujours soutenu.
Mais vous l'avez amené en Corse, chez vos amis et dans votre famille.
Ah, ils s'en souviennent, hein.
Ouais, mais parce qu'on avait fait une cure de désintoxication. Enfin, c'était Pete Townsend qui nous avait aidé, qui m'avait aidé, donc, à l'organiser, ce truc pour emmener Topper. Chez Meg Patterson, qui était celle qui faisait le Black Man Treatment, le Black Box Treatment, le traitement avec la Black Box. Et à la descente de l'avion, je l'ai amené en Corse au village.
Ouais.
Jouer au foot. Ma mère lui faisait de la soupe aux fèves. Il avait pris 10 kilos. Il a passé un mois avec moi. Et tout le monde s'en souvient parce que bon, un mec qui décroche souvent de l'héroïne a besoin de substituts. Lui, il buvait, quoi.
Après,
tout ce qu'il trouvait.
Ouais. Après, vous quittez plus ou moins la scène. Hein. Il y a les Flying Padovani, bien sûr, mais vous devenez vice-président d'un label. Est-ce que c'est vous, entre autres, qui avez découvert REM?
C'est-à-dire, c'était un label assez intéressant, IRS Records, comme ça qui s'appelle. IRS Records.
Les initiales du fisc, il faut préciser.
Pardon?
Pas les initiales du fisc. Les initiales du fisc américain, oui, absolument.
Inland Revenue Service.
Mais tout ça, c'est dû à Copland, au Copland. Hein. Si vous remarquez, les Copland, c'est Police, IRS, Illegal Records, c'est... Voilà.
CIA, pour des trucs, bref. Mais bon, on monte un label, ce qu'il y avait de bien dans notre label, et moi, puisque si j'espère qu'il y a des labels qui nous écoutent, il n'y avait pas de directeur artistique chez nous. C'était que quand on était d'accord, on signait. REM venait de tourner en Amérique pendant un an et demi, tout le monde leur avait tourné le dos. Ils viennent voir le plus petit label qui existe en Amérique, IRS, qui n'a rien du tout. Et ils nous le donnent leur cassette. Et puis nous, on dit, c'est pas mal, si on peut en faire 20 000, on signe. On en a fait 20 000. Donc on a fait un second album, on en a fait 50. Et on est arrivé au million sur 7 albums. Et ce que je veux dire, c'était un label sans directeur artistique. On était contents. Enfin, si on aimait tous un truc, on signait.
Olivier Cachin, REM, ça... C'est votre...
C'est vrai que ça a été une histoire. C'est toujours marrant de savoir qu'un groupe devenu aussi énorme, parce que maintenant c'est, enfin peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, c'était vraiment le groupe de stade, de savoir que ça démarre comme Police, avec quelques gars qui tournent dans des camionnettes pourries. C'est comme U2, hein, je veux dire. Moi, U2, la première fois où j'ai failli les voir, ils faisaient la première partie de Talking Heads, et ils sont pas venus parce que leur camionnette avait eu un problème. Donc c'est super drôle, ces histoires, parce que c'est vrai
que... Tout le monde fait oui autour de la table.
On se demande toujours comment on devient une superstar. La preuve avec tous ces groupes-là, c'est que faut bosser et surtout y croire. C'est croire à l'impossible.
En fait, ce que vous aimez, c'est les débuts, vous.
Non, j'aime pas spécialement les débuts, j'aime même les fins. Mais...
les bonnes fins.
Mais ce que je veux dire, moi j'adore le succès, j'adore savoir qu'un groupe... Vous savez, comme dit Olivier, la ténacité, c'est la qualité principale d'un groupe. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, en Angleterre, par exemple, 77 ou 78, il y avait des groupes bien meilleurs que Police. Il y avait des groupes bien meilleurs que les Clash, que Johnny Thunders, que tous ces groupes-là. Sauf qu'ils n'ont pas duré. L'important, c'est de durer dans la musique. Des groupes meilleurs que U2, il y en avait des millions.
Eh oui, l'important, c'est pas la performance, c'est la durée.
On est bien d'accord. Mais voilà. Et IRS, on a signé des petits groupes qui, à l'époque, ne trouvaient pas de label. On était une sorte, on a été le tampon entre la New Wave et ce qui est devenu l'alternatif qu'on appelait le mouvement alternatif américain. La musique a shifté, quoi. C'est tout se passé en Angleterre. Après, ça s'est passé en Amérique. On l'a bien vu. Nous, on avait signé les Cramps, les Fleshtones, Wall of Voodoo, Lords of the New Church, REM, les Go-Go's, les Bangles, enfin tous des bons petits groupes.
Montréal à côté, il a le même mouvement de lèvres, il connaît par cœur.
Je me suis trompé dans l'ordre, mais j'étais pas si loin.
Non, mais c'est ce genre de groupe qu'on signait, Concrete Blonde, tiens.
Henri Padovani, tout seul maintenant. C'est un CD qui vient de sortir, qui s'appelle I Love Today. Et vous allez nous faire le grand honneur de nous chanter un morceau. Bon, c'est moi qui l'ai choisi.
Ouais.
C'est Nature Boy. Vous allez directement au micro, hein, c'est rare de...
Live.
Pendant que vous vous installiez, comme disent les bons animateurs, on va redire que...
Je crois que je
m'améliore. Vous êtes dans... Oui, et il dit chez Répertoire, bien sûr, Henri Padovani. Vous êtes dans ce film, donc Rock'n'Roll, of course. Et on vous écoute.
Ah ah, Nature Boy. Merci. Ok, Nature Boy, la chanson de Nat King Cole. Bon, moi, je vous la fais à ma façon. Hein. Sting m'appelait toujours Nature Boy au début. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne connaissais pas le jazz. Et j'ai appris plus tard que c'était une sorte de petit compliment. Moi, je croyais que c'était parce que j'étais une sorte de paysan corse. Quoi. Donc, Nature Boy. Was a boy, a very strange, enchanted boy. And though he traveled very far, very far over land and sea, a little child. But sad of eyes, but very wise, was he. And then one day, a magic day passed my way. And though we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The only thing you'll ever learn is just to love
and be loved in return. You'll ever learn is just to love and be loved in return. Voilà.
Un vrai morceau punk.
Oui.
Ça, voilà. C'était Lionel Gage.
C'est, non, mais c'est vrai que c'est on sent, on le voit quand il chante, il a encore ce plaisir qu'on retrouve quand on voit dans votre film Rock'n'Roll of Course, on sent cette joie qu'il avait sur scène à l'époque aussi.
Absolument, complètement. C'est le destin de quelqu'un qui a un jour décidé, en tout cas qui a rencontré la musique, on va dire ça comme ça, et qui se dit que quoi qu'il advienne. Voilà sa vie. Sa vie, elle sera orientée, elle sera organisée autour de ça. Et quelque part, c'est toujours extrêmement plaisant de rencontrer ça, parce que ça montre aussi à quel point on est aussi en capacité parfois de choisir tout ou partie de son destin.
Et pourquoi vous levez les yeux au ciel, Henri Badoni ?
C'est toujours bien d'entendre les gens parler de vous alors que vous êtes à la même table.
Ouais, ouais, hein, c'est bizarre. Hein. Bah pour lui, ça doit être embarrassant.
Comme
aussi,
il le fait,
hein.
Ça va, c'est pas mal.
Ouais.
Ah ben non, bien, vous êtes difficile.
Oui, mais il est très
on
difficile.
On peut dire du mal aussi.
Ouais.
Oui, ça je peux. Ah,
c'est ça qui pourrait aussi.
Ça je peux, mais j'oserais pas.
Bon, il n'y a pas beaucoup de mal qui est dit dans le film. Hein. C'est un gentil garçon quand même.
Ben, c'est plutôt... Oui. Après, c'est aussi surtout dû à toutes les rencontres, hein, à toutes les personnes. Hein. Chaque personne avait le droit de dire autant de mal qu'elle voulait d'Henri. Mais c'est pas le cas. Je crois qu'on parle vraiment d'un noyau de personnes qui ont tissé des relations qui sont tellement forte que quoi qu'il advienne, même si dans l'absolu il pourrait penser beaucoup de mal d'Henri, ils ne le feront jamais en public.
Olivier Cachin, que reste-t-il du punk ?
Bah, il reste Johnny Rotten qui s'appelle John Lydon, il reste des groupes comme les Damned, il reste des groupes comme les Buzzcocks. Finalement, il reste pas mal de choses, parce que c'est vrai que ça fait quand même 40 ans qu'il y a eu cette explosion. Et finalement, les vieux punks... Moi, j'ai tendance à penser que les vieux punks vieillissent mieux que les vieux hippies, mais bon, ils sont peut-être devenus un peu moins conformistes. Il y en a pas mal qui sont restés fidèles à leurs idéaux. C'est vrai que c'était quand même, comme le rappelait Henri tout à l'heure, c'était un idéal, le punk. Hein. C'était parmi les nombreuses formules, il y avait voici un accord de guitare, un deuxième, un troisième, maintenant former un groupe. C'était ça l'idée. C'était genre, on en a marre de tous ces gens qui nous rabâchent leur science. On veut exprimer quelque chose un petit peu dans d'autres circonstances que le rap a pu créer des années après. C'est-à-dire l'idée de que ce qu'on a à dire et ce qu'on ressent est plus important que la virtuosité ou l'intellect. Ce qui n'a pas empêché certains punk rockers d'être très intelligents. Hein,
c'est marrant qu'Olivier dise ça, parce que moi j'ai une mini anecdote par rapport donc aux punks qui ont vieilli.
Vite.
Johnny Rotten a été interviewé. On lui a Et donc, il demande au journaliste de dire à Glenn Matlock qu'il arrête de dire partout qu'il a écrit la plupart des morceaux des Pistols. Et alors que Glenn Matlock a bien écrit les morceaux. Donc, le journaliste lui dit, mais c'est vrai. Il lui dit, oui, c'est vrai, mais c'est pas une raison.
Rock'n'Roll of Course sort la semaine prochaine, réalisé par Lionel Gage et Stéphane Bébert. Et bien sûr, vous restez tous les trois avec nous. On va passer un morceau, j'espère que vous allez aimer, de Placebo, Jesus Son, avant de parler des sorties.
Stand to attention. The moment's passed you by. Now is the rest of your life. Dare I to mention your laughter makes me cry. A speck of dust in my. Bless.
I've seen you fucking goodbye.
Laurent, les sorties de cette semaine n'ont pas très 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 enthousiasmantes par rapport à la semaine dernière. On va commencer par The Free State of Jones de Gary Ross, en pleine guerre de sécession, Newton Knight, courageux fermier du Mississippi, c'est Matthew McConaughey, prend la tête d'un groupe de modestes paysans blancs et d'esclaves en fuite pour se battre contre les États confédérés, formant un régiment de rebelles indomptables. Le fermier fonde le premier État d'hommes libres où noirs et blancs sont à égalité. Beaucoup de films ont évoqué la guerre de sécession, mais peu cet épisode-là.
Ah oui, oui, ça c'est l'atout majeur du film. Quel sujet ! Mais oui, non, mais quel sujet incroyable ! Alors, nous on découvre, je pense, de ce côté-là de l'Atlantique, il est possible que ça soit plus commun aux États-Unis. Mais enfin, nous on découvre vraiment, donc c'est une superbe, belle histoire. Mais là, on imagine ce que Coppola, Scorsese ou même Eastwood en auraient fait. Ça aurait été un film absolument génial. Là, le dénommé Gary Ross, il rate tout. C'est-à-dire, il filme son film en noyant sous les bons sentiments sirupeux avec d'incroyables flash forward. Le flash forward, c'est l'inverse du flashback. C'est-à-dire qu'on on nous transporte dans l'ère moderne. On sait pas pourquoi, pour un procès sur des noirs. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Bref, il plombe son sujet alors que vraiment il a un sujet en or. Et c'est dommage parce que cette espèce de portrait d'une sorte de Spartacus moderne aurait été vraiment, avec la grâce d'un grand réalisateur, ça aurait pu être un film mythique.
Il ne fait pas un peu des tonnes, Matthew McConaughey.
Et en plus, il est de tous les plans. Mais ça, c'est un peu la faute, je pense, du réalisateur qui n'a rien d'autre à faire que de le filmer. Et c'est pas ça l'essentiel.
Where to Invade Next, le nouveau film. Non, le nouveau docu. Non, pas vraiment. On va dire le nouveau one-man show de Michael Moore. Déguisé en envahisseur américain, en mission en Europe et en Afrique pour voler le meilleur de chaque système. En France, les cantines scolaires. En Finlande, les horaires des écoles. En Slovénie, les études universitaires gratuites. En Norvège, le système carcéral. Vraiment trop cool. En Islande, les banquiers fraudeurs en prison et la parité réelle, etc., etc. L'inverse aurait été compliqué. Alors, même si cette pseudo-enquête peut faire sourire, parfois, elle n'en demeure pas moins totalement subjective dans son catalogue de clichés. Une Europe fantasmée dont la description bisounours n'a qu'une seule fonction, faire ressortir toutes les failles du système américain explorées précédemment par Michael Moore. Avec, on peut le dire, la même mauvaise foi et les mêmes raccourcis. Olivier Cachin n'est pas de cet avis.
Non, moi j'ai trouvé ça sympathique. Alors après, bien sûr, c'est plein d'a priori. Le coup des cantines scolaires françaises où on mange, oui, c'est un peu exagéré. Mais rien que pour le couple d'Italiens qui explique à Michael Moore ce que c'est que les congés payés et les 15 jours de vacances après leur mariage avec les yeux ronds qu'il fait. Et puis là aussi, une scène qui est quand même assez forte, c'est le père d'une des victimes du facho norvégien qui dit « Je ne veux pas qu'il meure, je n'ai pas la haine contre lui, car sinon ça serait m'abaisser à son niveau. » Il y a quand même quelques scènes fortes. Alors après, bien sûr, c'est très bisounours, mais bon, franchement, on va pas faire que des films anxiogènes non plus.
Ce qui est marrant, c'est que Michael Moore dit que toutes ces valeurs ont été inventées par les Américains.
Mais c'est ça, le gros rusé qu'il est. Oui, non, mais il retombe sur ses pattes, c'est-à-dire c'est un rusé, quoi. Il nous assène tout ça juste pour dire aux Américains, mais c'est nous qui avons inventé tout ça, il suffit que nous le réinventions. Bon, franchement, ça va pas très loin. Hein.
Les démons, premier film de fiction du Canadien Philippe le Sage. L'histoire de Félix, 10 ans, Laurent, enfant imaginatif et sensible, qui termine son année scolaire dans une banlieue d'apparence paisible. Félix sauf que Félix a peur de tout.
Oui, alors vous savez, Philippe Sage, il vient manifestement du documentaire, oui. C'est ce qu'on nous dit, c'est son premier film de fiction. Alors on a l'impression que son programme, c'est de bien s'éloigner du documentaire. Surtout de ne pas faire du documentaire, surtout rien de réel. Alors il enchaîne un climat qui est un climat de conte à dormir debout et de cauchemar parfaitement lénifiant, comme si vraiment le programme était de s'enlever du réel, de s'enlever de la réalité. Et en même temps, le film aussi, du coup, sans cesse, entre une sorte de vision Amélie Poulinesque du monde, je viens d'inventer cet adjectif, et un univers horrifique, quand même, dans lequel il est quand même question de pédophilie, ce qui est un tout petit peu embêtant quand on voudrait juste cantonner les choses à une sorte de rêve éveillé. Bref, à force de ne pas choisir, à force de à la fois prouver qu'il peut être autre chose qu'un grand documentariste, Philippe Le Sage n'arrive pas à trouver dans la fiction, dans le conte, dans la fable, ce qui pourrait être le vrai moteur de son cinéma.
L'Atolard de Audrey Estrougo avec Sophie Marceau. Pour sauver l'homme qu'elle aime de la prison, Mathilde prend sa place en lui permettant de s'évader alors que sa survie en milieu carcéral ne dépend que de lui. Mathilde n'en reçoit aucune nouvelle. Rien de nouveau à l'ombre des barreaux, même si la démarche est sincère. Le contenu ne s'éloigne en rien de tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent et rien ne nous sera épargné de la fouille à l'entrée, la révolte, les petits trafics, les visites, les trahisons, la codétenue infernale. L'idée, alors s'il y en a une, c'était d'enfermer Sophie Marceau, qui devant tant d'injustices finit par protester, s'énerver avec la même conviction qu'il y a 36 ans dans la boum, lorsque ses parents lui interdisaient de sortir. De ce point de vue-là, Vic n'a pas changé. Mais quand Sophie Marceau va-t-elle enfin trouver de vrais cinéaste?
C'est pas fou.
Monsieur Hove, alors là on touche le fond ou pas là? Non, quand même pas.
Oh, ben, c'est-à-dire
de Hannes Holm, suédois.
Jamais à l'abri d'un malheur. En
adapté fait. D'un livre dont le titre raconte tout. Vieux râleur et suicidaire, ce monsieur Hove, mais qui va s'ouvrir humainement.
Mais bien sûr, mais évidemment, c'est tout est dit, quoi. C'est des suites de clichés larmoyants, parce qu'au début, on aura été un petit peu secoué par ce gros grincheux, et on a envie qu'il reste grincheux et méchant tout le film. Ben non, forcément, il change, parce que évidemment, il faut que l'univers soit radieux et les lendemains chantent.
Alors, Clash de Mohamed de Diable, égyptien, Le Caire, été 2013. 2 ans après la révolution, au lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants en convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police huis clos, tout comme le précédent, son premier film. Les femmes du bus 678, où tout peut éclater à tout moment. Un film inspiré donc de cette réalité égyptienne, ces conflits entre les révolutionnaires, les frères musulmans et l'armée. Il faut d'ailleurs un peu s'y retrouver comme spectateur un peu perdu au début, une confusion qui reflète assez bien d'ailleurs la situation décrite, absurde, celle de la guerre civile. Certes, certains personnages sont surlignés, certes, la mécanique et la tension s'épuisent dans le dernier quart d'heure, Laurent, mais moi je retiendrai l'énergie et le courage d'avoir utilisé le cinéma en plus d'action, de tension, pour décrire cette réalité-là.
Oui, alors on vient d'apprendre que le film est proposé par l'Égypte aux Oscars, ce qui est un petit peu normal.
Ah oui.
Bon, alors, 26 jours de tournage, un fourgon de 8 mètres carrés, 15 acteurs. Ça peut ressembler comme ça à une sorte de livre des records. C'est un peu comme ça que ça nous est vendu. Il faudrait quand même que pour un prochain film, Diable s'enlève de la tête qu'il faut absolument faire un film sous la contrainte, et notamment sous la contrainte d'un lieu clos. Je crois que ça le contraint à trop de choses. Je crois que ça devient caricatural, le pétage de plomb régulier des gens, l'opposition entre les deux camps, le reflet parfait de la société, hein, il y a des hommes, des femmes, et sociologiquement tout est parfait, ça en devient justement artificiel, là où il faudrait peut-être instiller un peu plus de complexité. On a envie de dire à Diable d'aller revoir peut-être certains films de ces cinéastes égyptiens qu'il a certainement aimé et vu, comme Chahine ou Nasrallah, où il me semble qu'il y a un peu plus de complexité dans la peinture de la société égyptienne.
Sauf qu'il la connaît bien, il vit là-bas, et certes. J'encourage bon. Non, je salue le courage de faire un film pareil en ce moment. Confusion de Yacine Brahem. Alors, il s'agit de Caroline Stindock, réalisée par 2 étudiants en cinéma qui suivent une personne qui s'appelle Caroline Gauthier, qui est chef de cabinet au département de la sécurité du canton de Genève en 2014 et qui doit accueillir un ex-détenu de Guantanamo, mais qui va avoir affaire à à des épreuves pour respecter... En fait, ce qu'elle veut, c'est respecter l'humanité de ce prisonnier.
Oui, alors, écoutez, c'est un film au statut un peu bizarre que, par exemple, Pierre Karl, dans ses plus mauvais moments, aurait pu faire. Le film s'appelle Confusion, il dure heureusement 1h10, il y a une confusion entre des genres, entre le doc et la fiction, confusion des moyens entre la distance nécessaire et la farce pas très drôle, confusion surtout des discours, alors que, évidemment, la matière politique sur l'arrivée et l'accueil ou le non-accueil par les démocraties européennes des réfugiés est évidemment très important. À force de vouloir dénoncer, mais sur un mode effectivement farcesque, ben le documentaire vrai-faux-fiction se trompe de sujet, entasse les clichés, et je voudrais juste rappeler qu'un autre documentariste suisse, Fernand Melgar, a fait deux documentaires, l'un qui s'appelle La Forteresse et l'autre Vol spécial, exactement sur le même sujet, c'est-à-dire l'incapacité de la démocratie suisse à intégrer, à faire venir des gens. Eh bien, ces deux documentaires-là étaient, à mon yeux, à mon sens, beaucoup plus intéressants. La Forteresse et Vol spécial.
Pour presque conclure, je vous épargnerai Ainsi va la vie, le dernier film de Rob Reiner, oui, avec Michael Douglas et Diane Keaton. Rob Reiner, l'auteur de Stand By Me, de Misery, ou quand Harry rencontre Sally.
Et de Spinal Tap.
Oui, bien sûr. Merci, Olivier. À ce propos, il y a un grand film qui ressort. Enfin, il y en a trois. Il y a Easy Rider, Olivier Cachin.
Ah, alors ça.
1969, Henri Padovani, vous l'avez vu à l'époque ?
Bien sûr.
Ah oui ? À 17 ans, vous voyez ça, ça a dû vous exploser la tête.
C'était au cinéma, c'était génial. Je m'en... On avait un cinéma à Aix-en-Provence à l'époque, j'étais à la fac, je me rappelle avoir vu Woodstock, Easy Rider, film des Beatles, quoi, je crois que c'était Help, j'ai vu Yellow Submarine, on allait au cinéma, et c'était génial, et ce cinéma n'est plus là, je crois, à côté du Grand Mirabeau, oh là là, on y allait tout le temps.
Sort aussi Macadam Cowboy de Schlesinger et puis Showgirls de Paul Verhoeven.
Alors Showgirls, moi j'adore.
Qui sort aussi, hein, je le dis, parce que la sortie en salle concerne quelques salles, mais il sort aussi dans une très belle édition DVD chez Pathé.
Le film qui a failli détruire la carrière de Paul Verhoeven, qui en a vu d'autres, qui a eu une critique un peu dégueulasse, comme le milieu qu'il décrit, mais c'est tellement plus intelligent que ce qu'on a pu dire dessus. Moi j'y ai vu effectivement un remake de Eve de Mankiewicz, mais ce n'est pas que cela. Allez revoir Showgirls. Vous avez vu comment il évolue, en plus, le Verhoeven avec Elle, son dernier film, à Cannes.
Il avait même eu un Razzie, il était venu chercher.
Oui, mais bien sûr, il est très intelligent, il est ouvert. Il est...
Ça a beaucoup mieux vieilli que Total Recall, d'ailleurs, entre parenthèses, Showgirls, je trouve.
Deux festivals pour terminer. Festival Fantastique de Strasbourg, 9e édition, depuis hier jusqu'au 25 septembre, apéro zombie. Cet après-midi, concert, projection des Dents de la Mer dans une piscine, et oui, sélection intransigeante, plus un sacré invité, le réalisateur Dario Argento, et le Fifi Gros, le festival du film grolandais, Pierre Etex, président du jury à Toulouse, hein, avec en sélection Willy Premier et Dogs, un film qu'on aime beaucoup, Laurent, du roumain Bogdan Mirica. Deux cadeaux pour nos amis.
Au total, trois cadeaux pour nos trois invités. Le premier, c'est pour Henri Padovani, un CD Comancheria, la bande originale de Comancheria, qui est juste ici signé par Nick Kev
et
Warren Ennis, vous avez raison, et qui vient de sortir chez Milan Musique. Et puis pour
voir le film aussi, hein, qui est très,
il faut
très bien.
Oui, avec Jeff Bridges. Ouais. Et pour nos deux réalisateurs cinéastes, film le même, mais quel film,
le dernier grand film de
Nos Funérailles d'Abel Ferrara, qui sort pour la première fois en DVD avec un très beau bonus qui est un entretien avec Ferrara. Voilà, c'est chez Rimini Film.
Merci beaucoup. Rock'n'Roll of Course sort mercredi prochain. Merci Henri Padova. La semaine prochaine, deux invités, Juliette Binoche et Gianfranco Rosi, s'il vous plaît. Alors là, le générique.
Grande première.
Générique en Corse. Henri Padovani, je vous fais signe.
È un'emissione ispirata da tutti i film di cinema. Ci sono realizzatori e attori, ci sono di noi scenaristi e capi operatori, e prese di vista sono prese di sonno. Sporto Contest ha scritto a musica di un generico, i pezzi sono stati scelti da Muriel Perez, Martine Messonnier si è occupata di La Prontera, l'emissione è realizzata da Anne Winfield, è prodotta e presentata da Christine Masson e Laurent Delmas, e c'era io, Henri Padovani.